Bonjour, on se retrouve comme chaque dimanche à cette heure-ci pour prendre le temps de souffler un peu en compagnie d'un auteur et de sa pensée au cours d'une conversation. Et je sais que c'est un rendez-vous qui vous plaît, vous nous le dites chaque semaine, merci. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage au livre, livre qui est au cœur chaque dimanche de nos entretiens. Notre invité est en effet Yann Sordet qui nous propose une histoire du livre et de l'édition. Yann Sordet est conservateur général des bibliothèques, rédacteur en chef de la revue Histoire et Civilisation du Livre. Il est en outre le directeur de la bibliothèque Mazarine, un des hauts lieux de la culture à Paris. Et nous allons vous y emmener. En route donc pour le 23 quai de Conti, au cœur de la capitale française. Bonjour Yann Sordet.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans cette bibliothèque Mazarine, ce lieu emblématique, un des lieux prestigieux de la culture à Paris. Pouvez-vous nous la présenter, cette bibliothèque Mazarine?
Oui, bah écoutez, bienvenue.
Donnez envie aux auditeurs d'y venir.
Bon, alors c'est une bibliothèque ouverte. La bibliothèque Mazarine, c'est non seulement une bibliothèque ouverte, elle est ouverte aux chercheurs, elle est ouverte aux étudiants, mais elle est ouverte au grand public. Et puis surtout, c'est la plus ancienne bibliothèque publique de France. C'est au XVIIe siècle, une grande collection privée. C'est la bibliothèque personnelle du cardinal Mazarin, ce premier ministre du jeune Louis XIV, qui va avoir une importance en termes de politique culturelle, de politique diplomatique colossale en Europe. Mais c'est aussi un grand amateur d'art, un grand collectionneur de livres, de manuscrits. Et Mazarin a constitué une bibliothèque absolument colossale, sans équivalent. Dans le monde occidental, puisque c'est une collection qui représente près de 50 000 volumes imprimés et manuscrits au milieu du XVIIe siècle, des livres très rares, des livres en langues orientales, vous avez les premiers livres imprimés en arménien, vous avez des manuscrits hébreux, vous avez des manuscrits persans, des manuscrits bien sûr médiévaux, et cette bibliothèque, il a l'intention très tôt d'en faire un monument public, d'en permettre l'accès aux chercheurs, aux étudiants, pour servir le progrès des belles-lettres, le progrès des sciences. Et l'accessibilité de cette bibliothèque, c'est une réalité du temps même de Mazarin. Et il a décidé que cette accessibilité devait se poursuivre par-delà sa propre disparition. Et quand Mazarin meurt, un peu avant le printemps 1661, le dispositif nécessaire à la constitution d'une grande bibliothèque publique pérenne est entièrement ficelé. Donc voilà les origines de cette bibliothèque Mazarine, qui est toujours un lieu de recherche, un lieu de visite, un lieu de culture, un lieu de découverte du patrimoine écrit.
Alors j'invite nos auditeurs à aller sur le site de la bibliothèque, qui est fort bien fait, puisqu'on y trouve toute la documentation nécessaire, on y trouve aussi des photos en 3D, on peut visiter cette bibliothèque. Il faut préciser qu'elle est au cœur de Paris.
Oui, véritablement au cœur de Paris, en face du Louvre. Donc elle a vraiment été constituée dans une position de regard sur la rive gauche de la Seine, en face du Louvre, dans un très beau palais qui a été construit par Louis Levaux. Alors on connaît Louis Levaux, cet immense architecte, très influencé par le baroque romain. Levaux a été vraiment marqué par le Bernin. Et Levaux, c'est l'architecte préféré du jeune Louis XIV dans les années 1660. Levaux est déjà connu, très connu, pour avoir construit le château de Vaux-le-Vicomte. Il commence aussi à être saisi du projet de Versailles dans les années 1660. Et puis, après la mort de Mazarin, les exécuteurs testamentaires du cardinal Mazarin, et notamment ses successeurs, le ministre Colbert, font appel à Louis Levaux pour construire. Pour construire quoi? Non seulement la bibliothèque Mazarine, qui est destinée à héberger et à pérenniser dans le temps la collection de Mazarin, mais pour construire plus largement un collège dans le sens qui était celui du XVIIe siècle, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui un learning center, un centre universitaire de recherche et d'apprentissage, c'est-à-dire susceptible d'accueillir des étudiants et de mettre à disposition de ces étudiants des ressources, et notamment des ressources documentaires. Donc, Ce palais a été construit par Levaux dans les années 1660.
Alors, je recommande à nos auditeurs qui passent à Paris ou qui sont à Paris, même en ce moment, de visiter ce lieu qui est impressionnant, où on trouve, et là je m'adresse plus particulièrement à nos auditeurs qui feraient des recherches sur l'histoire coloniale, des documents fort intéressants sur l'esclavage.
Oui, vous avez raison. Puis le moment n'est pas anodin pour évoquer ces richesses documentaires. Hein. On est en train de célébrer en 2021 les 20 ans de la loi Taubira. Hein, donc l'histoire de l'esclavage, l'histoire des relations triangulaires entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique sont un sujet d'actualité, hein, d'actualité politique et scientifique important. Et la bibliothèque Mazarine est véritablement un centre de ressources, hein, un centre de recherche sur ces problématiques-là. Alors on s'y attend pas forcément. Hein, on connaît a priori la richesse de la Mazarine pour ses manuscrits médiévaux, pour ses incunables, la Bible de Gutenberg, hein, toute la poésie française et italienne des XVIe et XVIIe siècles, et on ne devine pas qu'à la Mazarine, on peut aussi conduire des recherches dans le domaine de l'histoire de l'esclavage. Et pourtant, c'est une réalité.
Avec quel type de documents, par exemple ?
Alors, essentiellement, deux types de documents. La Mazarine a développé ses collections au XVIIe, au XVIIIe siècle, mais aussi à la faveur des confiscations révolutionnaires. Hein, et au moment de la confiscation des grandes collections ecclésiastiques parisiennes, un certain nombre de ressources sont venues des bibliothèques conventuelles, et notamment des bibliothèques dominicaines, pour enrichir les fonds. Et dans ces enrichissements-là se trouvaient un certain nombre de récits de voyages et de descriptions des îles, des Antilles et des Caraïbes qui offraient déjà des sources historiques pour connaître l'histoire ancienne de l'esclavage. Mais surtout, la bibliothèque Mazarine a accueilli au tout début du XXIe siècle un don extrêmement important d'un collectionneur privé, le docteur Marcel Chatillon, qui était un médecin, qui a passé une grande partie de sa vie dans les Antilles et qui a constitué une collection imprimée et manuscrite d'envergure sur l'histoire des Antilles, sur l'histoire de la traite. Et dans cette collection prodigieuse se trouvaient les archives de la Société des Amis des Noirs. Alors qu'est-ce que c'est que la Société des Amis des Noirs ? C'est une société, hein, philosophique, philanthropique. C'est aussi un groupe de pression intellectuelle qui fonctionne à la fin du XVIIIe siècle, dans les années qui précèdent la Révolution, et qui est la première société abolitionniste en France. Hein, une société qui rassemble des intellectuels, des banquiers, des penseurs politiques, et qui ont pour vocation, pour mission, de supprimer cette réalité qui est celle de l'esclavage. Et donc c'est vraiment un rouage extrêmement important dans l'histoire de l'abolition, dans l'histoire de l'esclavage. Et cette société se réunissait régulièrement, elle tenait le registre, hein, le compte-rendu de ces échanges, et les archives de ces échanges, les archives de ce travail intellectuel, de ce lobbying philanthropique et politique, sont conservées à la bibliothèque Mazarine, et nous sommes en train d'en préparer l'édition électronique. Donc une partie de ces ressources, une partie des archives de la Société des Amis des Noirs, seront très bientôt disponibles à travers notre bibliothèque numérique, parce que la bibliothèque Mazarine, c'est aussi une bibliothèque numérique.
Alors, il m'a semblé intéressant de vous rencontrer, de vous interroger dans le cadre de cette bibliothèque Mazarine pour parler dans cette émission d'idées de votre histoire du livre et de l'édition, qui est un travail colossal, plus de 800 pages. C'est une histoire globale, à la fois du livre, mais aussi de l'édition, de l'écriture et de la pensée qui est évidemment associée à tout cela.
Oui, en effet, donc c'est un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Albin Michel, hein, qui est sorti en mars 2021, et qui a été accueilli dans une très belle collection, la collection L'évolution de l'humanité. Et d'une certaine manière, c'est un livre dont la rédaction et la documentation a profité des ressources considérables conservées à la bibliothèque Mazarine. Donc c'est une histoire du livre et de l'édition, c'est une histoire à la fois matérielle, intellectuelle, technique de la production livresque qui court sur un temps relativement long. Hein.
Ah, ça commence au 4e millénaire avant Jésus-Christ, oui, avec l'invention de l'écriture.
Absolument.
Jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, tout à fait, avec la problématique de l'invention des écritures, qui est un sujet d'investigation permanente. Hein. Voilà, c'est l'occasion de rappeler que l'histoire de l'écriture, comme l'histoire du livre et de l'édition, sont des territoires de recherche dont l'activité est permanente. Hein, je voudrais rappeler que l'histoire de l'écriture est aussi précédée par un certain nombre de phénomènes qu'on qualifie de proto-écriture, c'est-à-dire il existe des systèmes de signes utilisés par un certain nombre de civilisations, les systèmes d'écriture de la région de Vinça dans la plaine danubienne, les écritures, les proto-écritures de l'Indus au 5e et 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc voilà, il existe ce qu'on soupçonne être des proto-écritures qui n'ont pas encore été déchiffrées, c'est-à-dire des systèmes graphiques, des systèmes de signes, que ces signes soient gravés, que ces systèmes soit pictographique, et pour lesquels le rapprochement et l'articulation avec une langue parlée n'a pas encore été établi, si tant est que cette articulation existe. Et quand j'évoque le fait que ce territoire est un territoire de recherche permanent, oui, je voudrais en donner un exemple. À l'automne dernier, ont été révélées des recherches toutes récentes qui ont permis l'élucidation de l'une de ces proto-écritures, hein, l'écriture de l'élamite linéaire, une écriture localisée dont la pratique était localisée en gros au sud de l'Iran actuel, une écriture dont le développement est vraisemblablement contemporain de celui de l'écriture cunéiforme, qui était donc cet élamite linéaire était connu par un corpus de sources relativement réduit, hein, environ une quarantaine d'objets textuels, et elle a été enfin révélée tout à fait officiellement, hein. Et c'est le fruit d'une investigation, d'une opération de recherche scientifique conduite par une équipe essentiellement franco-italienne.
Alors vous nous expliquez avec force détail historique, Yann Sordet, cette évolution de l'écriture puis de l'imprimerie. Vous nous expliquez par exemple comment nous sommes passés, enfin l'humanité est passée du règne du rouleau au règne du codex, c'est-à-dire du rouleau que l'on dépliait au volume que l'on connaît aujourd'hui.
Oui, alors l'histoire de l'écriture, l'histoire du livre et l'histoire matérielle des textes est, toute civilisation confondue, en général marquée par l'existence d'un support dominant. Hein, dans le monde méditerranéen et occidental, le support dominant du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ, c'est le volumen. Hein. Le volumen, c'est un rouleau dont le support est le papyrus. C'est un rouleau qui se déroule et qui est vraiment la forme la plus officielle, hein, du support textuel. Le remplace d'une certaine manière à partir des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ, le codex. Le codex, c'est le livre relié constitué de cahiers, d'un support qui n'est plus le papyrus, qui est le parchemin, donc un support de nature animale. Et le codex, c'est le livre sous le format matériel que nous connaissons encore. Voilà pour les périodes anciennes, mais ce qu'il faut rappeler, ce que j'ai eu à cœur de rappeler en permanence dans ce livre, c'est que l'existence d'un support dominant n'est pas exclusive. Voilà, la pratique des textes, l'histoire matérielle de la production, de la transmission textuelle repose aussi sur la sollicitation d'un nombre extrêmement étendue de supports, hein, toute civilisation confondue, ça va de la tablette d'argile à la plaque de verre, ça va des écorces et des matériaux, de divers matériaux botaniques. Il faut aussi évoquer la très grande variété des techniques de production papetière, hein, donc à base soit de matière première végétale, soit de matière végétale secondaire issue de transformation, issue du textile. Mais on ne peut pas faire l'histoire de l'écriture et l'histoire du livre sans évoquer les tablettes de cire, sans évoquer les supports textiles, sans évoquer également l'épigraphie, c'est-à-dire la capacité d'utiliser des supports monumentaux, hein, comme éléments de publication, hein, d'affichage des textes dans l'espace public.
Et sans dire également que certains philosophes, à commencer par Socrate, critiquaient finalement l'écriture, disaient que la connaissance devait se véhiculer, être véhiculée à l'oral.
Oui, alors ça c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant aussi et qui est récurrent. L'histoire de l'écriture, l'histoire du livre, et aussi l'histoire d'un certain nombre de procès. Il y a eu un procès de l'écriture, hein, procès initié par Socrate, hein, et dont Platon, à travers le dialogue du Phèdre, nous donne un témoignage. Et puis il y aura par la suite un procès du papier, il y aura aussi un procès de l'imprimerie, il y aura aussi un procès du numérique et de la dématérialisation textuelle, hein, voilà, pour faire allusion à des débats très, très contemporains. Et aux interrogations qui sont les nôtres sur les formes de survivance de l'objet livresque aujourd'hui et demain. Et pour revenir à ce procès de l'écriture, oui, c'est extrêmement intéressant. Donc Socrate manifeste des doutes extrêmement forts, hein, sur la légitimité de l'écriture.
Hein. Disant que la mémoire doit travailler et doit véhiculer la connaissance.
Oui, et l'écriture est un instrument, et en tant qu'instrument, elle permet à l'homme d'extérioriser le talent du dialogue, le talent de la mémoire, mais en extériorisant sur un objet matériel et à travers des techniques, les techniques scribales, en extériorisant ces talents, eh bien, il se dessaisit en quelque sorte de leur maîtrise. Hein. La pratique de l'écriture, finalement, est une autorisation à l'oubli. Hein. Et puis, la pratique de l'écriture consiste finalement à produire des textes qui vont exister, qui vont circuler au-delà de leurs circonstances d'élaboration, qui vont circuler de manière indépendante, sans avoir leur auteur, hein, immédiatement disponible pour éventuellement répondre à un certain nombre de questions, de contestations, d'interrogations. Donc il y a l'idée de cette fixité, de cette incapacité du texte écrit à maintenir la vivacité, le caractère dynamique du dialogue et de l'échange permanent. Et puis il y a aussi dans le procès instruit par Socrate, quelque chose de très important qu'on va retrouver aussi de manière pérenne dans toute l'histoire de l'écrit et dans toute l'histoire du livre, et notamment à travers les phénomènes pamphlétaires, les phénomènes de malentendus, les phénomènes d'incompréhension. C'est que Socrate part du principe que lorsqu'un texte circule dans l'espace et dans le temps, il circule et entre en relation avec des lecteurs, avec des communautés, hein, qui découvrent ce texte-là, tout en étant totalement étranger aux circonstances, aux problématiques, aux principes, aux raisons qui ont présidé à l'élaboration initiale de ce texte-là. Et donc c'est une source de malentendu absolument colossale. Et le principe de malentendu, hein, le principe de l'inadéquation entre un texte et les communautés qui en pratiquent la réception et qui le transmettent, c'est un élément permanent, hein, de l'histoire du livre.
Et Yann Sordet, dans cette somme, dans cette histoire du livre et de l'édition, vous nous expliquez très bien également le lien qu'il y a entre le format du livre, la forme du livre et la pensée que ce livre soutient. Je trouvais que c'était très intéressant. La pensée, les pensées, les philosophes, les écrivains ont dû tenir compte de l'écriture, de la typographie pour élaborer leur pensée.
Oui. Et la matérialité même des textes, la forme de l'écriture et la forme des livres a conditionné d'une certaine manière la forme et la dynamique de la pensée. Donc là, je crois qu'on peut évoquer les travaux un peu anciens qui datent des années 70 d'un anthropologue qui s'appelle Jack Goody, qui a évoqué à travers un ouvrage fabuleux, La domestication de la pensée sauvage, qui a évoqué cette capacité de la culture scribale, cette capacité de l'objet écrit et de l'objet livresque à générer de nouvelles formes de pensée, à générer de nouvelles manières de penser et de nouvelles catégories, ce qui finalement faisait, ce qui a fait aux yeux des chercheurs de l'objet livresque, non plus seulement un instrument, le réceptacle d'une pensée, mais également un moteur de la pensée. Et voilà, dans le sillage de Goudy, on voit très bien que là, c'est vraiment la possibilité du déploiement du texte écrit dans l'espace de la page qui permet d'inventer des réalités organisationnelles, des textes qui sont totalement nouvelles, c'est-à-dire les systèmes arborescents. L'arbre de la consanguinité, qui est une réalité du texte juridique au Moyen-Âge, mais qu'on va utiliser aussi pour l'organisation totalisante et encyclopédique de la pensée et des sciences. Pensez à l'arbre de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, hein, à cette volonté d'organiser tous les savoirs de manière arborescente à l'intérieur d'un système de hiérarchisation. On retrouve aussi, à travers la pratique de l'écrit et de la mise en page, la possibilité de déployer l'information textuelle sous forme de tableau. Hein, donc avec des colonnes, avec des lignes, et le tableau, finalement, suscite des rapports rationnels qui échappent à la continuité syntaxique, hein, à la continuité à la séquentialisation de la phrase, puisque le tableau donne à voir une intelligence des rapports entre la gauche et la droite, entre le bas et le haut, hein. Donc le déploiement dans l'espace de la page du texte écrit est aussi générateur de formes de pensée.
La parole à ceux qui pensent le monde.
Alors, d'évidence, c'est, je pense que tout le monde le sait, la naissance de l'imprimerie avec Gutenberg entre le XIVe et le XVe siècle est une date clé dans cette histoire du livre et de l'écriture.
Oui, l'invention gutenbergienne, et on reviendra d'ailleurs sur le concept de gutenbergien en se demandant si c'est vraiment suffisant, hein, d'évoquer la seule personnalité de Gutenberg. En tout cas, cette invention, l'invention de la typographie, c'est-à-dire de l'imprimerie à caractère mobile métallique, prend place dans une dynamique extrêmement importante qui est la recherche de la reproductibilité. Le Moyen-Âge est traversé, surtout à partir du XIIIe siècle, par toute une série d'inventions et d'initiatives qui visent à accélérer la reproduction d'un texte et à accélérer l'efficacité de cette reproduction. Comment produire pour des communautés d'usage différentes, hein, par exemple pour les étudiants de l'Université de Paris ou du Collège de Sorbonne, pour les membres d'une communauté monastique, des exemplaires aussi proches les uns des autres d'une même matrice textuelle. Hein. Donc cette recherche est vraiment une recherche consciente, et l'invention gutenbergienne va apporter une solution technique. Mais il faut aussi faire état d'un certain nombre de préalables, entre guillemets, extrêmement orientaux. L'invention gutenbergienne est précédée, mais sans aucun rapport de transfert technologique, elle est chronologiquement précédée d'un certain nombre d'inventions qui se font en Chine, qui se font en Corée, et qui précèdent, hein, de toute évidence, l'invention de la typographie à caractère mobile métallique à l'occidental. On pratique la xylographie, la gravure sur bois, dès le 7e et 8e siècle en Chine. Hein. Dès le 13e siècle en Chine et en Corée, on pratique l'imprimerie en caractère mobile. Ce sont des caractères mobiles qui sont d'abord en bois, qui sont ensuite en argile, en terre cuite, et puis qui ensuite vont être aussi en métal. Il n'y a aucune attestation de transfert technologique depuis l'Extrême-Orient hein, vers l'Europe occidentale, vers Mayence hein, et la vallée du Rhin à la fin du Moyen-Âge au XVe siècle, mais en tout cas, l'antériorité de ces expériences extrême-orientales est une réalité. Alors, je reviens, si vous permettez, très rapidement sur Gutenberg. Oui, Gutenberg, c'est un personnage important, c'est un technicien du métal, c'est lui qui apporte l'ingénierie dans cette innovation qui est celle de l'invention de la typographie. Mais il n'est pas seul. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de tenir compte de l'ampleur des travaux qui ont été conduits par les historiens du livre à la fin du Moyen-Âge et qui insistent tout particulièrement sur le triangle, sur l'association que forment trois personnages. Il y a Gutenberg, l'ingénieur du métal, qui a développé son expertise technique sur d'autres territoires avant d'aborder celui de la reproduction des textes. Mais il y a aussi un banquier, Jean Fust, qui va assurer la mise de fonds, qui va financer ses recherches, qui sont des recherches lourdes, exigeantes sur le plan économique, et il va les financer parce qu'il entrevoit, bien sûr, la possibilité de commercialisation, d'extension marchande de ce procédé. Et puis, il y a un troisième personnage, il y a un troisième larron, si je puis dire, c'est Peter Schoeffer. Et Peter Schoeffer, c'est l'expert du texte. C'est un universitaire, c'est un calligraphe, donc c'est celui dans ce groupe de trois hommes qui a la culture universitaire, qui a la culture textuelle la plus forte. Donc on a vraiment là une association de trois compétences, une compétence sur le capital, hein, voilà, sur le projet économique, une compétence sur la technologie, c'est Gutenberg, et puis une compétence sur le texte, et c'est vraiment l'articulation de ces trois compétences qui explique le succès de l'invention de l'imprimerie dans la décennie 1450 à Mayence. Et j'aime bien utiliser un terme qui va peut-être vous choquer parce que c'est un néologisme, mais c'est un anglicisme aussi, c'est le terme de jointure. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est que la jointure ? C'est une association de compétences diversifiées, mais dont la réunion hein, et l'articulation sur un temps très court est absolument indispensable pour inventer un produit et assurer sa vitalité commerciale.
Et Yann Sandé, il s'agit à cette époque de diffuser, d'imprimer des textes de nature religieuse, il faut le préciser, non ? Vous disiez tout à l'heure qu'ici même, à la bibliothèque Mazarine, vous disposiez d'un exemplaire de la Bible de Gutenberg. Gutenberg est aussi associé à cette Bible.
Bien sûr, la Bible de Gutenberg, c'est le premier livre imprimé du monde occidental. Hein, cette Bible qui est imprimée entre 1452 et 1455, pour être très précis. Alors, puisque vous évoquez la bibliothèque Mazarine, oui, rappelons que pendant longtemps, au XVIe, au XVIIe, au début du XVIIIe siècle, les historiens, les bibliothécaires, les savants savaient que Gutenberg avait inventé la typographie, même s'il y a eu d'autres concurrents, et savaient aussi que Gutenberg avait imprimé une Bible, hein, cette grande Bible. Mais cette Bible, personne ne l'avait identifiée, personne ne l'avait trouvée. Alors on la connaît bien aujourd'hui, mais personne ne l'avait trouvée. Pourquoi ? Parce que cette Bible, elle n'avait pas une page de titre. Hein, elle n'avait pas une page de titre sur laquelle aurait été porté le nom de Gutenberg, la date et le lieu d'impression, hein, Mayence vers 1455, etc. Donc elle n'avait pas ces métadonnées, nous dirions aujourd'hui, elle n'avait pas ces marqueurs identitaires. Et en fait, cette Bible, il a fallu la chercher. Donc ce sont des experts, des historiens du livre au XVIIIe siècle qui ont confronté les diverses éditions bibliques du XVe siècle, qui ont comparé le matériel typographique, les différents caractères, et l'un d'entre eux, qui était aussi libraire, il s'appelait Guillaume-François de Bure, c'était un grand libraire, un grand expert du livre ancien et du livre rare à Paris dans les années 1750-1760. Eh bien, de Bure, un jour, il travaillait dans la bibliothèque Mazarine, dans cette salle de lecture, juste à côté de nous, et puis il regardait un certain nombre de Bibles du XVe siècle, et il a démontré que l'une de ces Bibles était précisément la Bible de Gutenberg. Donc, et il l'a publié immédiatement. Hein. Si Gutenberg a imprimé une Bible, c'est celle-là dont témoigne un exemplaire que possédait Mazarin au XVIIe siècle et un exemplaire qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque Mazarine. Donc voilà ce qui explique que pendant longtemps, la Bible de Gutenberg, on l'a appelée la Bible Mazarine. Alors aujourd'hui, certes, la bibliothèque Mazarine conserve toujours cette Bible de Gutenberg, cet exemplaire. Il est d'ailleurs numérisé en haute définition et en libre accès à travers notre site, à travers notre bibliothèque numérique. Mais depuis, on en a découvert d'autres exemplaires. Et à travers le monde, on conserve aujourd'hui 49 exemplaires de la Bible de Gutenberg. Donc c'est pas un livre très rare. Donc oui, la Bible a eu une importance colossale dans l'histoire du livre. Mais n'oublions pas que Gutenberg a imprimé aussi d'autres textes. Hein, et il y a eu d'autres essais, un petit ouvrage de grammaire, un calendrier. Hein, voilà, il y a eu d'autres essais qui ont précédé l'impression de la Bible.
Alors cette époque est une époque décisive, parce qu'après, dans les siècles qui vont suivre, pas de réforme sans le livre, pas d'humanisme sans les essais des penseurs humanistes, et je ne parle pas du siècle des Lumières. Cette invention a eu un impact considérable dans la diffusion des idées et également dans le combat politique.
Oui, oui. Alors vous évoquez les grands mouvements de rénovation intellectuelle, hein, l'humanisme, et puis les convulsions spirituelles qui ont aussi été des convulsions politiques.
Pour la réforme, c'est frappant. Vous le soulignez d'ailleurs dans le livre.
Voilà, c'est une évidence. Alors, dans l'esprit même de Luther, hein, donc la réforme surgit en 1517, hein, avec les thèses de Luther et à partir de 15...
Toujours en Allemagne d'ailleurs.
Oui, 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 absolument, en Allemagne effectivement. Hein. Donc la conscience de l'imprimé, la conscience du média était très présente dans l'esprit de Luther. Et je crois qu'il est important de dire que Luther est aussi un penseur du média, un penseur de la communication. Et il est évident que c'est impossible de dire aujourd'hui que la réforme est fille de l'imprimerie, mais en tout cas, la manière dont s'est propagée extrêmement rapidement la réforme, la manière dont la réforme et l'expansion et le développement et la ramification du protestantisme et des différents protestantismes se sont opérés, ont vraiment su mobiliser l'imprimé dans sa capacité de médiatisation. Donc là, effectivement, il y a un changement d'échelle qui se passe à partir de 1517 et à travers lequel on mesure que l'imprimé est un espace d'expression publique à part entière, est un outil pamphlétaire qui offre une puissance de communication et une puissance de conviction totalement inédite. Et voilà, alors on peut aussi songer à la faveur de cet événement à toutes les tentatives de réforme spirituelle antérieures à Luther et à Calvin qui n'ont pas abouti d'une certaine manière parce qu'elles reposaient sur la parole, elles reposaient sur la communication manuscrite et elles ne disposaient pas de cette arme, hein, de ce dispositif extrêmement puissant qu'est devenu l'imprimé.
Alors, il y a le phénomène religieux, la religion, la diffusion du catholicisme, la Bible. Il y a aussi le combat politique, symbolisé, par exemple, par le siècle des Lumières. Et par ce qu'il faut bien appeler aussi, vous venez un peu de le dire, Yann Sordet, par la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion publique.
Oui, 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 la naissance de l'opinion publique. Et là, le XVIIIe siècle est vraiment une époque très importante, hein, parce que on voit très bien que la constitution d'espaces de l'imprimé convergents qui deviennent des territoires d'expression non seulement d'expression politique mais d'expression publique. Se développe un certain nombre de journaux qui deviennent aussi des journaux d'opinion. Alors attention, bien sûr, la presse est une invention du XVIIe siècle, hein, des toutes premières années du XVIIe siècle. Mais c'est vraiment avec le XVIIIe siècle que la presse devient un vecteur d'opinion. Ce n'est plus seulement un vecteur d'information, un vecteur pédagogique, un vecteur de communication scientifique, mais ça devient un espace d'opinion. L'expansion de l'imprimé aussi, l'expansion de l'alphabétisation, la constitution dans les espaces urbains d'Europe occidentale de classes bourgeoise et de classe moyenne qui développent aussi leur consommation de l'écrit, profitent de ce mouvement et en profitent d'autant plus volontiers et avec une aisance nouvelle que l'imprimé est beaucoup plus disponible dans l'espace public. On est sorti d'un écosystème marqué par la relative rareté de l'objet livresque, de l'objet imprimé, et de fait, à la disposition des lecteurs se trouvent des objets textuels extrêmement diversifiés. Non pas seulement un titre de périodique, mais plusieurs, de la littérature pamphlétaire, des pièces imprimées ou des placards imprimés circulant dans l'espace public, et puis aussi de grands textes hein, et de grandes collections qui affichent un message non seulement savant, mais également un message politique d'émancipation des consciences et d'émancipation des savoirs. Et vous l'avez, c'est une question que vous avez touchée en évoquant l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.
Dans ce livre très riche qui traverse les siècles, du 4e millénaire avant Jésus-Christ à aujourd'hui, des tas de dates très importantes, d'époques importantes, vous soulignez aussi évidemment que le livre a été le support de combats politiques. Et ici même, on est bien placé pour le savoir, si j'ose dire, puisque les fameuses Mazarinades, ces pamphlets qui étaient adressés à Mazarin, ont été en quelque sorte les prémices de cette littérature pamphlétaire qui s'est développée au fil des siècles.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on trouve d'ailleurs à travers le corpus des Mazarinades.
Faut rappeler ce qu'étaient les Mazarinades d'ailleurs. C'était des pamphlets adressés à Mazarin à l'époque de la Fronde.
Voilà, ce sont des textes très courts, extrêmement diversifiés dans leur genre. Ça peut être des chansons, ça peut être de la poésie, ça peut être un récit sarcastique, ça peut être une pièce argumentée, hein, relativement sérieuse. Mais en tout cas, la caractéristique commune des Mazarinades, c'est le pamphlet. Hein. Ce sont essentiellement des pièces publiées, je dirais, à 90% contre Mazarin, et à 10%, il existe aussi des Mazarinades qui prennent la défense de Mazarin. Ce corpus-là, ce corpus de pamphlets, surgit et circule dans un temps très court. Hein. Les Mazarinades, c'est entre 5000 et 6000 éditions différentes, diffusées entre 1648 et les premiers mois de l'année 1653. Donc voilà, 5 années, pas plus, et ces 5 années correspondent à un moment de convulsion politique très fort en France. Hein. Presque une petite révolution, entre guillemets, qui n'a pas abouti, c'est la Fronde. C'est un mouvement de contestation contre la politique de centralisation monarchiste, contre le ministère de Mazarin. Hein, Mazarin est vraiment mis en difficulté. Et vraiment, ce temps politique est vraiment un temps de surgissement de cette, non seulement de cette littérature, mais de cette édition pamphlétaire extrêmement dense et qui n'aura pas d'équivalent pendant tout l'ancien régime. On va retrouver des chiffres comparables au moment de la Révolution française, hein, à nouveau efflorescence de pamphlets, mais en tout cas, le corpus des Mazarinades, lui, est un chapitre de l'histoire du livre extrêmement cohérent.
Et en tout cas, c'est un genre qu'à travers c'est les siècles aussi, et qui est très contemporain, hein, toujours, le pamphlet, hein, les essais.
Oui, la logique du pamphlet aussi, qui s'exerce aussi à travers les réseaux sociaux, d'une certaine manière.
Alors, on y vient à l'époque contemporaine, vous parlez évidemment du 19e siècle, du 20e siècle, du développement de l'imprimerie, de la la presse, etc. Vous nous rappelez que le livre de poche, le fameux livre de poche qui nous est précieux, est assez récent puisqu'il date de 1953, enfin récent à l'échelle de l'histoire. Ça aussi, c'est une date mine de rien importante, 1953, naissance du livre de poche. Et du mot même, livre de poche.
Oui, oui, absolument. Alors là, le livre de poche a été précédé d'un certain nombre d'initiatives éditoriales, hein, les plus anciennes datent des années 1840-1850, et le livre de poche est vraiment en tant que tel une révolution. Et c'est amusant, il a vraiment été pensé comme tel. Hein, dans les années 1960, on considérait que le poche, c'était la dernière grande révolution de l'histoire du livre et de l'édition. Une révolution au sens global, y compris aussi au sens social, parce que le livre de poche, c'était un nouveau format, c'était de nouveaux chiffres de tirage, c'était un coût relativement bas, mais c'était aussi l'invention des industries culturelles, d'une certaine manière, et de la consommation de masse. Donc il y avait cette vision, cette conception d'une révolution, entre guillemets, qui touchait non seulement au format, à la nouveauté de l'objet, mais qui touchait aussi aux conditions de son expansion. Mais c'est amusant quand on regarde, quand on fait un petit peu de l'historiographie récente, parce que ensuite cette question de la révolution du livre de poche a été marginalisée par la révolution numérique. Hein, et à partir des années, les premiers diagnostics, hein, les premiers penseurs qui entrevoient la révolution numérique le font dès le début des années 1980. Et là, on considère que non, la troisième révolution du livre, hein, après la révolution gutenbergienne au XVe siècle, après la révolution de l'industrialisation de l'édition au XVIIIe, XIXe siècle, eh bien la troisième révolution du livre, c'est le numérique et la dématérialisation.
Alors Robert Darnton, le grand historien américain qui signe la postface de votre livre, l'histoire du livre et de l'édition, considère que ce que nous vivons aujourd'hui avec le numérique, c'est aussi important que la naissance de l'imprimerie, même peut-être plus important que la naissance de l'imprimerie avec Gutenberg.
Oui,
et ses acolytes, dirais-je.
Oui, oui, absolument. Robert Darnton insiste sur un certain nombre de paramètres, et notamment sur la chambre d'écho de cette troisième révolution du livre. Et cette chambre d'écho, c'est la planète Terre dans son ensemble, puisque, contrairement à l'invention gutenbergienne, qui était relativement, dont les impacts étaient relativement localisés, aussi bien en termes de périmètre géographique, Europe occidentale pendant plusieurs décennies avant l'expansion, mais aussi sur le plan social, le livre n'était pas un objet qui parcourait toutes les classes de la société. Robert Darnton insiste beaucoup sur le fait que la révolution du numérique, à travers les réseaux sociaux et les applications des réseaux sociaux, est non seulement un phénomène internationalisé, mais aussi un phénomène, bien sûr, mondialisé, et un phénomène qui traverse toutes les couches de la société. Donc, c'est peut-être la première de ces grandes révolutions du texte et des livres dont l'impact est aussi immédiatement universel.
Alors, le texte continue, Yann Sordet, mais le livre lui-même est-il menacé, selon vous, l'objet livre ? En venant vous voir aujourd'hui, je n'ai vu, comme tous les jours d'ailleurs, que dans la rue ou dans les transports, des gens lire des écrans et non plus des livres.
Oui, mais nous avons traversé la salle de lecture de la bibliothèque Mazarine et vous avez vu un certain nombre de lecteurs et de chercheurs vraiment, plongés dans un certain nombre d'ouvrages imprimés et manuscrits en cours de consultation. Alors, nous sommes dans un temps de toute évidence de transition, mais moi, ce qui me frappe beaucoup, avec la prudence qui est la mienne, hein, parce que je suis historien, si je puis dire, je ne suis qu'historien, hein, et pas prophète, mais moi, je regarde avec une certaine précision les éléments de diagnostic dont nous disposons en 2021. Et qui permettent de relativiser un certain nombre de positions qui ont été exprimées au début du XXe siècle. On voit très bien que, enfin, au début du XXe siècle, et jusque dans les années 2011, 12, 13, hein, on faisait face à deux types de positions, hein, les turiféraires des GAFAM, les turiféraires de la numérisation, hein, à la fois pour de bonnes, excellentes et de moins bonnes et de moins excellentes raisons, mais ils diagnostiquaient la fin du livre dans sa matérialité, la fin du papier, l'extinction des derniers formats livresque matérielle. Et puis, de l'autre côté, vous aviez un certain nombre de positions qui manifestaient le même diagnostic, mais avec une certaine inquiétude. Hein, et on retrouvait là cette logique du procès, qu'on avait, et des inquiétudes que le surgissement du papier, que l'invention de la typographie avait suscité. Aujourd'hui, on a un petit peu de recul. Et puis, on voit très bien que, en ce moment, l'édition numérique, c'est-à-dire le livre entièrement dématérialisé, a du mal à dépasser dans ses chiffres de diffusion, dans ses chiffres de consommation aussi, un certain plafond de verre. Hein. Alors on sait très bien que dans certains domaines, la littérature professionnelle et la littérature pédagogique scientifique, l'édition numérique est située entre 30 et 40% de la diffusion. Mais dans d'autres secteurs, comme la littérature, hein, tous espaces civilisationnels confondus, on dépasse très rarement les 8% de la diffusion. Pour le numérique. Dans d'autres secteurs encore, comme le livre jeunesse ou le livre d'art, la part du numérique est totalement anecdotique. Hein. Pour le livre d'art, on dépasse difficilement 1,5% de la diffusion. Donc, et pour différentes raisons, hein, dont on n'a pas le temps de détailler les éléments aujourd'hui, mais voilà, je crois qu'il faut regarder de manière relativement sereine ces chiffres. En tout cas, nous, en tant que professionnels du livre, nous manipulons aussi bien le livre papier, hein, le livre que nous tenons entre les mains, que les supports numériques. Et cette hybridation des pratiques, cette hybridation des supports est totalement naturel chez nous.
Donc on est passé du rouleau à l'écran.
On est passé du rouleau à l'écran, mais en passant également par l'intermédiaire de la page, hein, qui est dont le concept a été diffusé par la réalité du codex.
Yann Sandet, merci de nous avoir reçus pour parler du livre, de votre livre, l'histoire du livre et de l'édition. Vous êtes environné de papier, de livres naturellement, mais je vois qu'il y a quand même un ordinateur sur votre table.
Oui. Bien sûr, et beaucoup d'écrans. Hein. J'ai eu l'occasion de vous le dire, la bibliothèque Mazarine c'est une bibliothèque, c'est un lieu de patrimoine, c'est un monument historique, mais aussi c'est aussi un centre de recherche et d'investigation dans le domaine de l'histoire du livre et des textes. Et ces recherches, ces investigations, on le fait en mobilisant tout aussi bien les humanités numériques, hein, les technologies de l'instrumentation numérique, qu'en utilisant des méthodes plus traditionnelles. Hein. Et j'aimerais rappeler aussi que la bibliothèque Mazarine, c'est une bibliothèque dans ses murs du XVIIe siècle, mais c'est aussi une bibliothèque numérique.
Vous pensez à Mazarin tous les jours quand vous êtes dans ce bureau qui donne sur la cour de ce prestigieux établissement ?
Forcément, même si mon intention n'était pas de penser à Mazarin, je croise son buste, un très beau buste sculpté par Le Rambert quelques années après sa mort, juste avant d'emprunter l'escalier qui conduit à mon bureau.
Merci Yann Sandet.
Merci.
Yann Sandet, directeur de la bibliothèque Mazarine, auteur d'une histoire du livre et de l'édition publiée chez Albin Michel. Et je vous recommande une visite de cette bibliothèque sur le site bibliothèque-mazarine.fr. Idée réalisée bien sûr par Vanessa Rovensky, prise de son Richard Rifono. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI. RFI.